va aujourd'hui là consacrer ces dernières minutes à un très beau témoignage Agathe Nathanson-Marielle, qui a écrit ce très très bel ouvrage « Chanter sous les larmes ». C'est magnifique ce titre. Oui, je vous en prie. Hein. Là, on va s'asseoir là. Donc, vous avez été bien sûr aidante, aidante de votre époux. Alors, celui-là doit marcher, c'est bon.
Parfait. Bonjour.
Alors, racontez-nous un peu, vous avez accompagné pendant très longues années votre époux, Jean-Pierre Marielle.
Oui.
Atteint par la maladie d'Alzheimer.
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui se passe quand cette transformation progressive, comment voilà, quand on aime un homme, comme vous l'avez aimé, passionnément, et que vous le voyez arriver, tomber dans la maladie, vous ne savez pas ce que c'est, vous le voyez changer.
Alors moi, je savais ce que c'était que la maladie, parce que ma mère avait déjà eu la maladie très jeune, donc j'avais fait déjà un premier long parcours avec ma mère, qui a été malade assez longtemps, une dizaine d'années avant de partir. Puis, effectivement, quand j'ai rencontré mon mari, donc, qui est comédien, donc la mémoire est extrêmement importante chez les comédiens, il a assez vite, c'est-à-dire autour des années 2000, j'ai trouvé qu'il avait un peu des problèmes de répétition, pas tellement des problèmes de mémoire, mais des problèmes de répétition. On venait de se rencontrer il n'y a pas très très longtemps. Jean-Pierre était un homme assez extravagant, assez extraordinaire, pas un homme tout à fait
commun
dans les codes. Donc j'ai mis ça sur le compte, comme on venait de se rencontrer pas très longtemps auparavant, j'ai mis ça sur le compte d'une sorte d'émotion. Il avait quand même 65 ans, il s'attendait peut-être plus à rencontrer quelqu'un, il n'avait pas été très heureux en amour toute sa vie. Donc voilà, il avait une sorte d'émotion qui pouvait justifier effectivement ses répétitions et tout ça. Et puis comme j'étais quand même bien au fait de la maladie, pour l'avoir bien observé chez ma mère, je trouvais qu'il y avait quand même des choses de mémoire qui étaient assez répétitives. Et c'est pas tellement qu'il oubliait, mais il répétait beaucoup. Donc voilà, ça m'a un peu intriguée.
Oui, ça oui. Ressemble pas. Oui, ça ressemble pas vraiment à des signes classiques, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'oubli, il avait.
Oui, il n'avait pas d'oubli, il avait des répétitions, mais les répétitions, elles entrent aussi quelquefois, je pense, dans la maladie. Donc ça m'a quand même éveillée.
C'est
puis
vous.
Un jour, on répétait dans un théâtre, et puis il y avait un. C'était la répétition, et il y avait une travée qui était ouverte pour laisser passer les décors. Et dans les théâtres, c'est toujours assez sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, et il est tombé dans cette travée, et il s'est déchiré les ligaments sur les deux genoux. Bon, ça, c'était une chose, donc on l'a soigné pour ça. Il aurait pu s'arrêter, mais il a voulu continuer les répétitions et il a voulu qu'on joue exactement aux dates prévues. Sauf que lui qui savait son texte avant d'être tombé dans ce trou, tout à coup, ne savait plus un mot de son texte. Tout s'était effacé. Alors, est-ce qu'il a eu un mini AVC ? Est-ce que, enfin, bref, on ne sait pas la raison, mais il a fallu qu'il réapprenne son texte. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Bon, mais voilà, on y est arrivé. Il l'a fait avec, de temps en temps, effectivement, un peu des difficultés. Mais on avait mis des souffleurs en coulisses au cas où il y ait un problème. Bon, bref, les représentations se sont bien passées. Mais à l'issue de ce premier incident, quand même un peu marquant, j'ai trouvé qu'effectivement, la mémoire était un peu flanchante et tout ça. Donc, on est allé consulter à la Salpêtrière. Et puis, voilà, on m'a dit, sans le dire à Jean-Pierre, qu'effectivement, il y avait vraisemblablement des problèmes à venir. Voilà, Jean-Pierre a été pas concerné par la chose, et puis on a continué. Et puis, quelques années plus tard, effectivement, les problèmes de mémoire sont vraiment venus.
Devenus prégnants. Est-ce que lui-même était inquiet ou c'est vous ?
Pas du tout.
Pas du
lui
tout.
N'était pas du tout inquiet, et ou alors il était dans un déni profond, très bien joué. C'était un bon comédien, mais non, je le connaissais vraiment bien, j'étais vraiment très proche de lui. Il n'était pas du tout inquiet.
Comment vous l'expliquez ça ? Comment expliquer ? Parce qu'on parlait justement de cette cette inquiétude.
Voilà,
de
dans la mesure où ça.
Pourtant, en plus,
pas.
Lui qui est un, il avait les mots quand les mots lui ont manqué, quand il a commencé. Ça,
Enfin, mais les mots du quotidien ne lui ont pas manqué. Les mots du quotidien ont continué à être là, présents. L'humour était présent, tout était présent. C'était juste une sorte de mémoire du texte qui, tout à coup, est arrivée, effectivement, quand il fallait apprendre des textes, que ce soit pour des films ou pour le théâtre. C'était plus compliqué. Mais bon, ça ne l'a pas perturbé plus que ça, dans la mesure où il y a, et il y a même des gens qui n'ont pas du tout la maladie d'Alzheimer, il y a des moyens maintenant pour les comédiens de les aider en mettant une oreillette, comme ont les journalistes d'ailleurs à la télévision, et voilà, et quelqu'un souffle le texte, c'est le texte pur, sans être joué, et le comédien joue. Et ça fonctionne extrêmement bien, et Jean-Pierre a trouvé ça très très agréable. D'abord, c'était moi qui donnais le texte, donc j'étais tout le temps avec lui partout, puisque c'est moi qui soufflais, et lui n'avait plus qu'à jouer, et il trouvait ça formidable. Voilà, il était heureux avec ça.
Est-ce que vous ressentiez des moments d'impatience, de...
Pas voilà. Du tout.
Jamais.
Pas du tout.
Vous n'en vouliez
pas.
Pas
du tout par rapport à un état qui aurait pu le perturber. Non, pas du tout. Il continuait une vie tout à fait normale tant qu'il a pu, effectivement, mais sans inquiétude particulière par rapport soit à la mémoire, enfin par rapport à la mémoire surtout, non.
Non, je parlais de vos impatiences à vous. Vous voyez, vous m'avez parlé de lui, je vous parlais de vous.
Ah, moi ?
Oui, vous.
Non,
c'est,
non là, parce que
les
moi,
dons
je savais...
classiques, c'est-à-dire, vous n'aviez pas des moments d'exaspération entre
nous. Non, parce que je connaissais déjà la maladie. Donc, je connaissais déjà la maladie. Donc, si, par exemple, effectivement, de tout le temps répéter ou d'être avec quelqu'un qui... petit à petit devenait de plus en plus malade, je savais que c'était la maladie. Donc si j'avais un moment d'impatience, je me reprenais en me disant « Non, il est malade. Ce n'est pas quelqu'un de normal qui fait ça pour t'embêter. Il est malade. » Donc voilà, je veux dire, si j'avais, je ne sais pas moi, quelqu'un qui boite à côté de moi et qui marche à deux à l'heure, je n'allais pas m'énerver contre une personne qui marche à deux à l'heure parce qu'elle boite. Elle boite parce qu'elle a un vrai problème. Donc j'acceptais la chose. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que disait le docteur Mathieu, voilà, enfin Mathieu, oui, Stampa.
C'est pas vrai,
voilà,
c'est Mathieu,
Stampa,
ça lui fera
oui, enfin,
plaisir,
voilà,
docteur
son
Mathieu.
C'est comme si je le connaissais déjà bien. C'est qu'effectivement, il y a une chose qui est primordiale pour vous qui êtes aidant, peut-être, c'est qu'il y a un seul mantra, c'est d'aimer. Je veux dire, l'amour est la chose, enfin, le sentiment qui vous permettra de résister et qui vous permettra de supporter le plus possible et le mieux possible. Parce que, en fait, pour les dents, qu'est-ce qu'il a d'autre à offrir que son amour pour aider la personne qu'il aime ? Alors évidemment, il faut espérer que vous aimez cette personne
oui, c'est ça,
dont
vous
êtes
vous
aidant.
Dire.
Si vous n'êtes pas aimant de cette personne, aidé. Ça devient plus difficile. Mais moi, à la place du mot aidant, je dirais soyons des aimants et accompagnons nos malades le mieux qu'on puisse avec ce sentiment d'amour. Alors après, si l'amour n'est pas là, ben, y a le devoir, peut-être.
Oui, on le ressent beaucoup dans les relations filiales. C'est tout différent. Malheureusement, les histoires familiales ne sont pas toujours simples.
Les histoires familiales ne
sont
pas
toujours simples. Hein. On peut avoir,
voilà,
effectivement...
Et on peut ne pas avoir d'amour, effectivement, pour son père, sa mère ou son frère, je n'en sais rien. Et auquel cas, il y a peut-être le sentiment de devoir, de bienveillance, d'humanité, qui fait qu'on peut peut-être aider la personne comme on aimerait aider son voisin s'il est dans un état catastrophique.
Est-ce que vous identifiez avec votre mari comme avec votre mère, c'est-à-dire cette notion d'aidance, vous disiez j'étais surtout aimante.
Non.
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 C'est très. C'est, est-ce que.
J'ai jamais pensé
vous,
tant que mon mari était là
oui.
De me dire je suis aidante. Non. J'ai jamais pensé ça. J'étais sa femme. Il n'était pas bien. Eh ben je faisais tout pour qu'il soit le mieux possible dans son environnement, tant qu'il a pu rester dans son environnement. Maintenant, Jean-Pierre avait un Alzheimer un peu particulier. Il était quand même extrêmement violent. Donc, il y a eu un moment où ça devenait effectivement extrêmement compliqué pour moi aussi, parce que, indépendamment de la résistance et de la résilience qu'il me fallait, il y avait des moments où il pouvait être dangereux pour moi. Donc,
il y a eu un moment où il a fallu se décider
oui,
à se séparer.
Oui, il y a eu un moment, et c'était vraiment contre ce que je voulais. Il y a eu un moment où il a fallu effectivement le mettre dans une résidence, parce qu'il était dangereux. dangereux pour moi. On m'avait dit range les couteaux, range les ciseaux, range tout. Et il était dangereux pour lui-même, c'est-à-dire que il avait des moments où il pouvait manger du savon, il pouvait boire de l'eau de Javel. Enfin, plus rien n'avait de référence pour lui, donc tout était danger.
Et vous avez pu le faire, excusez-moi pour cette question, sans éprouver de culpabilité?
Ah, parce... si. Et non, j'ai pas éprouvé de culpabilité. J'ai éprouvé un immense chagrin, un immense désarroi et une immense peine. Culpabilité, non, parce que j'allais le voir tout le temps, qu'il était, on s'occupait bien de lui, et surtout, c'est qu'il n'était plus là du tout. Du tout. C'est-à-dire, il ne me reconnaissait pas. Et quand je l'ai emmené avec sa petite valise, qui a été, je pense, le jour le plus horrible de ma vie, je pleurais. Et, enfin, je veux dire, pas devant lui, mais j'étais extrêmement détruite. Mais lui n'a pas du tout marqué aucune résistance. Il n'a pas réalisé qu'on passait d'un lieu à un autre. Parce qu'il était déjà extrêmement avancé dans la maladie. Maintenant, ma mère, que j'ai dû aussi mettre dans une maison parce que je ne pouvais pas m'en occuper, c'était trop lourd, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 2 enfants, un métier, enfin, je ne pouvais pas consacrer toutes mes journées à elle comme j'ai pu le faire pour Jean-Pierre. Là, oui, j'ai eu un énorme sentiment de culpabilité. Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a une rupture au moment où on ne vous reconnaît plus?
Je pense que le fait de ne pas être connue n'est pas le pire. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu comme étant le pire. Bon, ben, il ne me reconnaissait pas. Le pire pour moi a été de voir cet homme qui était intelligent, drôle, élégant, pudique. Enfin, voilà, n'être plus rien de tout ça. N'être plus l'homme que j'avais connu et surtout n'être plus l'homme qu'il était. Voilà, j'ai trouvé que dans la maladie, ce qu'il y avait de pire, c'était ça, c'était de voir cet homme qui avait été tellement charismatique et brillant, n'être plus rien. Et alors, j'ai écrit ce livre et je crois que ce sont des lettres que je lui écris. Et je crois que dans une lettre, je dis, il devient comme un petit tas de poussière. Et c'est ça qui, en fait, l'image de Jean-Pierre malade, c'est un petit tas de poussière. Parce que, à la fin de la maladie, hein, je dis, c'est parce que tout à coup, il n'y avait plus rien de ce qu'il était. Une enveloppe physique qui n'avait pas changé, mais à part ça, rien. C'est un deuil prématuré, je crois que c'est ce qu'on appelle un deuil blanc.
Blanc, absolument.
Et voilà, il faut être très... Pendant que le malade est encore là, je pense qu'il faut être très, très résilient. Et cette résilience, elle ne peut être portée, je crois aussi, que par l'amour et par l'amour des autres et en l'occurrence, l'amour de son malade.
Juste peut-être un dernier mot. Est-ce qu'on s'isole? Est-ce que vous avez vécu dans un huis clos? Vous ne vouliez plus le...
Oui.
Et alors, est-ce que vous avez un message à adresser?
Oui, alors moi j'ai été obligée de m'isoler parce que Jean-Pierre était quelqu'un de connu. Donc je ne pouvais pas emmener quelqu'un de connu trop loin. Et pourtant je l'ai emmené déjà très loin et le professeur Dubois en est témoin parce qu'il a bien connu notre parcours à tous les deux. Donc je l'ai quand même emmené très loin, c'est-à-dire qu'on continue à avoir une vie sociale sur les gens, avait une vie sociale avec les gens qu'on connaissait bien. On continuait d'avoir une vie un peu extérieure, le restaurant, enfin bon, ce qu'on pouvait encore faire assez loin dans la maladie. Et puis il y a eu un jour où ce n'était plus du tout possible parce que Jean-Pierre avait des dérives. Parce que, bon, enfin bref, vous connaissez la maladie, donc vous savez quelles peuvent être ses dérives. Donc, c'était plus possible. Donc, oui, on s'est isolé et vous, complètement.
Vous-même, vous étiez
complètement,
avec lui.
Complètement. Alors, moi, j'essayais de prendre un peu des soupapes de respiration, des soupapes aussi de continuer à être dans une vie un peu active, parce que c'était aussi une sauvegarde. Donc, quand je pouvais un peu m'absenter, parce que j'avais la chance d'avoir de temps en temps, enfin, ou assez souvent quelqu'un à la maison, vite je m'absentais et j'essayais aussi d'aller un peu respirer, parce que c'est aussi indispensable de respirer un peu, d'aller un peu, je sais pas, vous avez la mer, d'aller juste un peu voir la mer, d'aller voir un peu les fleurs si on est à la campagne, les boutiques si on aime les boutiques, enfin prendre un tout petit peu de temps pour soi, pour respirer et recharger une énergie qui est terriblement sollicitée, c'est vrai.
Ça fait 5 ans maintenant, c'est ça?
Ça fait 5 ans qu'il est parti.
Vous êtes
Alors, la seule chose que je puisse vous dire, peut-être, que ces moments terribles que vous vivez, et je sais que vous en